me kes pastil.
Me kes pastil.
Oh, me kes kes pas.
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile, en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce mardi 11 juin 2024. Alors bon, je vais pas vous mentir, on est bien saturé de l'actualité politique française, donc pour aujourd'hui, on va la laisser de côté. Peut-être que jeudi, on ira faire un petit tour, histoire de faire un petit aperçu un peu large de la situation. Voilà, vous le savez quand même, des futures élections législatives sont attendues pour la fin du mois suite à la dissolution de l'Assemblée nationale, des alliances se nouent à gauche, à droite et de tous les côtés. On se laisse là de côté, on va laisser refroidir un petit peu, on en parlera peut-être jeudi. Et puis une autre chose dont on ne va pas parler, mais je viens juste d'apprendre, et bien c'est que Guillaume Meurice, le commentateur de France Inter, a été donc licencié pour faute grave suite à une déloyauté répétée envers sa direction. Je ne sais pas trop ce que ça vaut sur le côté du droit du travail, mais en tout cas, c'est bon, il est viré de chez France Inter. Donc ça va peut-être aussi continuer à bouger de ce côté-là. Mais pour l'heure, on va plutôt revenir sur ce qui s'est passé ce week-end du côté de la manif contre la 69 à côté de Castres. Un gros week-end organisé avec des conférences, des opérations de semis, la création d'une bergerie aussi. Il y avait des milliers rassemblés donc contre ce projet d'autoroute de la 69. Une grande marche a été organisée le samedi, interdite par la préfecture, et a subi, comme prévu, donc une forte répression policière. C'est un reportage déniché dans les colonnes de Reporters qui se situe qui allait donc sur place. Et on est sur la commune de Puy-Laurens, dans le Tarn. Puy-Laurens, je crois qu'on dit. Ce 8 juin, donc, c'est le jour où le journaliste était sur place. Plus de 1600 policiers et gendarmes mobiles ont protégé le chantier de l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse. Dans ces collines tarnaises, donc à quelques pas du village de Puy-Laurens, les affrontements avec les militants qui s'opposent à ce projet ont duré des heures. Des blindés Centaure, des policiers en motocross, des hélicoptères, ça ce sont bien évidemment les effectifs de la préfecture qui a sorti l'artillerie lourde contre environ 6000 manifestants pour les organisateurs, 1600 selon la préfecture. Tout cela donc pour empêcher le déroulement de ce troisième grand rassemblement qui s'appelait Roue Libre. Quelques jours plus tôt, je vous en avais parlé à ce micro, Gérald Darmanin avait choisi d'interdire cette mobilisation nationale, qui avait pourtant été organisée et prévue depuis longtemps par les soulèvements de la Terre, et aussi une soixantaine de collectifs, dont par exemple la Confédération Paysanne ou Extinction Rébellion. Ça rappelle la stratégie qui avait été employée lors de la manifestation anti-bassine de Sainte-Soline en 2023, hein, une décision d'interdiction juste avant un week-end, laisse pressentir un usage massif de la force policière. La veille déjà, des gendarmes s'étaient rendus dans les ZAD qui avaient été créés en janvier et en mois de février sur la commune de Saïx. Le bilan, donc, de quelques heures plus tard dans la journée de ce samedi, à l'issue de cette fameuse manif-action, une vingtaine de victimes légères, 3 blessés graves transférés à l'hôpital du côté des militants. Un gendarme et un policier auraient également été légèrement blessés, touchés visiblement par un cocktail Molotov et un tir de mortier. Mais tout cela, c'est d'après la préfecture du Tarn, et souvent les blessés du côté de la police, après on a du mal à les retrouver. Arrivés dès la veille pour certains, en tout cas les militants se sont réunis sur un terrain privé, prêté par un agriculteur de la commune, ce qui a donc permis d'organiser cette rencontre au moins dans une certaine sérénité. Le camp de base donc sur ce terrain privé a accueilli les 3 jours de mobilisation jusqu'au dimanche soir, avec de nombreux chapiteaux montés pour l'occasion et au programme des tables rondes, une projection de documentaires, des balades naturalistes, des concerts et même donc des opérations de réensemencement avec du semis et la création d'une bergerie qui a été montée pour l'occasion. La lutte contre la 69 est avant tout une lutte paysanne pour protéger les terres nourricières, insistait d'ailleurs la porte-parole de la Confédération Paysanne Laurence Marandola. Tous les syndicats devraient être là, dit-elle, mais on est le seul et c'est bien dommage. Aux alentours de 13h30 sur cette journée du samedi, donc pour la manif, les militants ont donc formé 4 cortèges. C'est une stratégie qui se répète de plus en plus sur ce type d'événement. Des cortèges différents, pensés et différenciés donc par leur caractère, avec des couleurs. Le cortège endurant avec le nom et la couleur verte, le cortège festif en rose, le cortège intrépide en bleu et le cortège calme avec la couleur jaune. L'objectif étant que chacun puisse trouver sa place selon justement le type d'action dans lequel il veut s'impliquer. La question des affrontements violents est compliquée, commentait d'ailleurs une militante du collectif La Voix est libre. Personnellement, dit donc cette jeune Aline, je ne suis pas convaincue que ça soit la solution. À côté d'elle, d'ailleurs, au moment de cet échange, une autre militante hochait la tête en expliquant que différents angles d'attaque sont possibles, donc celui des tribunaux, de la non-violence ou du désarmement frontal. Quand on parle de désarmement, c'est par exemple des actions type des débâchages de bassines, donc ce qu'on appelle du sabotage. Les médias décrivent souvent une mobilisation bon enfant qui a viré à l'affrontement. C'est faux. Aux yeux de ces deux femmes, donc en tout cas, le camp qui était réuni ce week-end, et ben justement, agrégé une constellation de stratégies différentes mais complémentaires les unes des autres. Les uns soutiennent les autres sans pour autant participer à leurs actions. Justement, c'est le cortège bleu, donc le cortège intrépide qu'a suivi le journaliste et qui est parti donc dernier de ces quatre groupes. Il a immédiatement subi les foudres des forces de police, hein, c'était la cible privilégiée. Alors que ce cortège comptait rejoindre la départementale voisine, la D-926, une nuée de gaz lacrymogène et de grenades GM2L, les grenades de désencerclement, se sont abattues sur les militants. Certains ont tenté de riposter avec justement des engins pyrotechniques, donc feux d'artifice j'imagine, mais ils ont été repoussés dans un champ de blé. Chahuté par les palets de gaz lacrymogène, le champ ailleurs commençait à prendre feu par endroits. Pris d'étourdissement ou touchés mais parfois dans leur chair, des blessés ont dû être évacués vers l'arrière. Et bien, au même moment, l'autre cortège, le cortège vert, eux, filaient vers l'ouest, avec comme mission et bien justement de profiter de cette diversion qui avait été organisée par le cortège bleu pour aller occuper le chantier de la 69. Petit à petit, les détonations ont pris de l'ampleur malgré tout sur ce cortège aussi, et la queue du convoi a été ciblée par les forces de l'ordre. Courez, courez, ils se font bombarder à l'arrière, crie un jeune homme dans son mégaphone. C'est alors d'ailleurs qu'une anecdote assez médiatisée de ce week-end a pu avoir lieu. C'est une habitante qui a ouvert le portail de son jardin et qui a indiqué un raccourci à tout un groupe de militants. Elle a reçu en retour, on l'imagine bien, une flopée de remerciements et d'accolades. Plus tard, donc à 15h45, alors que les militants se sont arrêtés sur le toit d'une colline surplombant le hameau Saint-Loup, donc toujours en direction du chantier, les ultimes consignes ont été délivrées. L'idée, c'était de dévaler le champ à toutes jambes, traverser la nationale et occuper donc le chantier de la 69 qui était déjà visible au loin. Top départ, la marée humaine part en courant en direction de la nationale, mais ils ont été devancés par des fourgons de CRS qui ont occupé toute la chaussée et ont empêché ces militants de traverser. Se sont ensuivis des échanges de grenades et de cailloux, les forces de l'ordre avec leurs blindés et les militants avec des lance-pierres géants. Entouré de médics, un militant foulard à carreaux, interviewé aussi, explique qu'il a voulu enterrer une grenade dans le sol, mais qu'elle lui a explosé juste à côté. Le souffle coupé net, le thorax comprimé et la sensation d'avoir des rasoirs dans la gorge. D'autres soignants, d'ailleurs d'autres médics, ont soigné de nombreuses personnes sur place. C'est un jeune homme, par exemple, frappé par un LBD au niveau du biceps. Quelques feux d'artifice ont fusé et éclaté à hauteur des forces de l'ordre. Une brèche a donc semblé s'ouvrir vers le chantier, mais elle a bien vite été rebouchée. Donc, pas possible pour ces militants d'atteindre la fameuse cible du chantier. Au bout d'une heure donc d'interminables affrontements, les forces de l'ordre ont doucement écarté les activistes des abords du chantier qui se sont repliés en direction du camp, mais malgré tout en chantant des slogans hostiles à Atosca, le concessionnaire donc chargé de la mise en œuvre de ce chantier. À la tombée de la nuit, aucune interpellation n'avait été signalée. Et dimanche, au petit matin, c'est l'hélicoptère de la gendarmerie qui continuait de survoler le camp à faible altitude. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce petit récit de la journée du samedi, sur le camp de la mobilisation contre la 69, un récit que j'ai un petit peu taillé, mais c'était quand même histoire de rendre un petit peu compte de ce qui s'est passé et des stratégies qui ont pu être mises en place sur place par tous ces militants.
Changer le monde, vous êtes bien sympathique, mais on va déjà vous lever le matin. C'est pas le monde qui va se plier à vos désirs, les enfants. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est le vrai monde dehors. Mais le vrai monde, il va chez le coiffeur.
Des nouvelles du monde.
Le collectif pour la réouverture du CMPEA, c'est le Centre médico-psychologique enfant-adolescent du Vigan, nous invite, vous invite à un rassemblement aujourd'hui à 18h au Vigan devant la sous-préfecture. Ce comité, ce collectif exige la reprise donc de ce service public indispensable pour les jeunes du territoire. Et nous avons eu contacté par téléphone ce matin Coralie Joly, qui est secrétaire de l'Union locale CGT du Vigan, et elle fait aussi partie de la coordination santé départementale CGT du Gard. Elle fait évidemment donc partie de ce comité pour la réouverture du SCMPEA, et elle nous rappelle donc un petit peu la situation sur le bassin viganais.
Depuis un an, donc en juin 2023, le CMPEA est partiellement fermé suite au départ du psychiatre qui était en poste. Il n'a pas été remplacé, et donc le suivi des enfants déjà suivi et toujours en cours, mais il n'y a pas de nouveaux enfants qui peuvent bénéficier des consultations du CMPEA. Le CMPEA, donc, c'est des consultations pédopsychiatriques pour les troubles du comportement, par rapport aux troubles du comportement. C'est aussi tout ce qui est évaluation et diagnostic des troubles du neurodéveloppement. Donc, c'est tout ce qui est autisme, les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Tout ce qui est trouble 10 à l'école, les dyslexies, ensuite les soins adaptés. Et le CMPEA, c'est aussi le lien avec l'aide sociale à l'enfance et un lien avec la justice par rapport aux mineurs. Donc il a un rôle quand même très très important sur le bassin viganais.
Alors le CMPEA, c'est une compétence normalement, c'est quoi, c'est national ?
Alors donc c'est une compétence de l'État, c'est normalement public, c'est sous le couvert d'une structure psychiatrique. Nous, le fonctionnement qui est en place depuis, on va dire, une quarantaine d'années, donc il y a un médecin psychiatre qui intervient, qui est salarié par le centre hospitalier d'Alès. Et après, tout ce qui est effectif paramédicaux, c'est-à-dire infirmière, psychologue, psychomotricien, c'est l'association éducative du Mascarillac.
D'accord.
Voilà, donc jusqu'à présent c'était ce fonctionnement-là. Depuis que le psychiatre donc est parti, si vous voulez, tout ce qui est diagnostic et prescription, en fait, n'est plus effectué. Et le suivi paramédical continue.
Et alors qu'est-ce qu'on vous dit au niveau justement des instances, je ne sais pas si c'est l'ARS qui est en charge de ça, mais pour que le service public soit continué, normalement, qu'est-ce
alors,
qu'il faudrait ?
En fait, donc depuis un an, j'ai envie de dire, c'est un peu la nébuleuse de CMPEA. On a eu un mal fou à comprendre le fonctionnement du CMPEA. Moi, j'ai mes camarades, donc CGT du centre hospitalier d'Alès, qui ont posé la question à l'instance. On leur a quand même répondu que le centre hospitalier d'Alès ne gérait pas le CMPEA, alors qu'il salarie le médecin. Donc ça, c'était quand même assez surnaturel. Bon, nous avons enfin compris le fonctionnement. Donc là, aujourd'hui, ce qui est en cours, c'est que les autorisations sont en train d'être revues par l'ARS. Les quelques informations qu'on a pu avoir, c'est que où on se tournerait à nouveau vers un fonctionnement identique, soit l'activité serait donnée au Mascaréron, qui est l'autre structure psychiatrique du Gard, mais il y a des difficultés de recrutement de personnel. Et la problématique également sur le centre hospitalier d'Alès, c'est qu'ils sont démunis en termes de psychiatres sur leur propre établissement.
J'ai un peu l'impression que c'est le même schéma que ce qu'on a pu voir pour la maternité de Ganges, c'est-à-dire une structure qui est là, qui existe, mais faute de personnel ou en tout cas de volonté d'embaucher, il n'y a rien qui se passe.
Tout à fait, c'est exactement ça. Donc après, on dit comme quoi il y aurait un psychiatre qui aurait été trouvé par l'association éducative du Mascarillac, mais ça c'est vraiment, on va dire entre guillemets, des rumeurs qui circulent. Donc rien de concret. Le collectif a été créé il y a plusieurs mois. Il y a eu des demandes de rencontres auprès de l'ARS, auprès de la sous-préfecture du Vigan, auprès donc des représentants de l'État, et nous n'avons jamais été reçus. Donc c'est pour ça que nous avons décidé d'organiser ce rassemblement quand même, parce que ça, c'est une grosse problématique. En fait, il y a une évaluation. Il y a donc le bassin de population sur le Vigan et tout le territoire environnant, c'est 15 000 personnes. Il y aurait quand même 500 enfants qui seraient potentiellement bénéficiaires. Donc c'est énorme.
Sur les enfants qui étaient déjà en suivi, donc vous aviez dit qu'ils continuaient de bénéficier d'un soin, mais ça veut dire quoi? Qu'ils doivent se déplacer du coup, ou comment ça se passe?
Alors, ce qui se passe, c'est que où il se déplace, où en fait, il y a un médecin psychiatre qui intervient, je crois, une fois par semaine.
Sur rendez-vous, on va dire, quoi, plutôt.
Sur rendez-vous, voilà, sur rendez-vous. Et après, donc, le paramédical est toujours effectué.
D'accord. Mais il n'y a plus possibilité pour des parents ou des enfants qui seraient en détresse, là, d'avoir un rendez-vous sur le Vigan, quoi.
Non. Après, ils sont orientés sur Saint-Hippolyte. Donc, c'est quand même aussi notre crainte que le CMPEA parte sur Saint-Hippolyte-du-Fort, qui est présenté comme plus central au niveau du département. Mais bon, il faut savoir que nous, c'est quand même le territoire viganais, on va dire plus particulièrement le territoire de Bégoyle, ce sont de vrais déserts médicaux. Il n'y a plus rien en termes de...
Oui, puis il y a quand même la cité scolaire locale qui est là, avec le seul lycée du secteur.
Oui, en plus.
Donc il y aurait du sens que ça soit là-bas.
Bah, tout à fait. Bon, c'est vrai que, Saint-Hippolyte, il y a un collège, c'est plus central au niveau du département. Mais j'ai envie de vous dire, les gens qui sont quand même en difficulté sociale, parce qu'on a quand même, le bassin viganais, c'est quand même un bassin très précaire. Si vous avez des difficultés sociales, si votre enfant a besoin d'un suivi, vous allez essayer d'entreprendre la démarche, mais j'ai envie de vous dire, avec la difficulté du bus d'organisation, on craint vraiment que les gens ne rentrent pas dans une démarche de soins pour leurs enfants, avec tous les risques qu'il y a après, pour le futur et pour leur avenir.
Et alors, est-ce qu'on peut terminer là-dessus? Est-ce que vous, peut-être, ou vos collègues, avez pu vous rendre compte d'une détresse qui augmente chez les jeunes ces dernières années, notamment la génération qui a vécu, par exemple, les confinements, etc.?
Oui. Alors moi, j'ai envie de vous dire un peu moins, parce que bon, moi je suis moins concernée, mais dans le collectif, nous avons des parents d'élèves, nous avons des professionnels de santé, et effectivement, on se rend compte qu'il y a une jeunesse qui est en détresse. Et c'est quand même l'objet aussi de notre rencontre ce soir, donc parce que nous rencontrons la sous-préfète ce soir qui a accepté de nous recevoir, et voilà, ça on veut le lui faire toucher du doigt. Moi je sais qu'il y a eu quelques hospitalisations en psychiatrie en urgence pour des jeunes qui ont eu lieu dernièrement. Est-ce que s'il y avait eu un meilleur suivi, ces hospitalisations auraient eu lieu? On est en droit de se poser la question.
Alors le rendez-vous, donc, c'est à 18h, c'est ça?
18h devant la sous-préfecture, donc il y a une délégation de 3 personnes qui sera reçue. Dans la délégation, il y a un représentant syndical, un représentant de la FCPE, donc qui est parent d'élèves, et un autre représentant syndical, salarié de l'association éducative du Mascavaillac, et qui a exercé au CMPEA. Donc, qui est vraiment à même d'en parler.
Voilà donc une interview enregistrée ce matin par téléphone. Si vous souhaitez suivre un petit peu les actions de ces collectifs, vous en retrouverez pas mal sur les pages Facebook, notamment du Vigan tout simplement, ou alors de l'Union Locale CGT, ou bien la page CGT Hôpital Le Vigan. Si vous souhaitez même les contacter, vous avez un mail qui a été créé pour l'occasion. C'est cmpeabassinviganais@gmail.com. Voilà, pour essayer de continuer à lutter contre cette désertification médicale qui nous touche de plein fouet entre la maternité, les soins psychiatriques, au niveau des urgences. Ça devient de plus en plus difficile de ne pas vivre en ville.
Ah ouais, carrément.
Qu'est-ce qu'il fout en milieu rural aussi?
On va se changer un petit peu les idées, enfin je ne sais pas si on peut parler de ça, car il est quand même question de guerre, mais c'est une guerre plutôt psychologique que continue de se livrer la Corée du Sud et la Corée du Nord. J'ai découvert ce dimanche que la Corée du Sud donc, avait relancé ses campagnes de propagande par des haut-parleurs, donc des campagnes de propagande sonore en direction du Nord, alors qu'au Nord, Pyongyang... ont apparemment l'habitude d'envoyer des ballons, donc des ballons dans le ciel, pleins d'immondices pour les répandre donc sur leurs voisins du Corée du Sud. Ils se promettent d'ailleurs chacun l'autre une nouvelle riposte. Les relations donc entre les deux Corées sont à l'un de leurs plus bas niveaux depuis des années. Des analystes avertissent d'ailleurs peut-être d'un risque probable que cette escalade conduise à de véritables affrontements militaires. Parce que c'est vrai que pour l'instant, ça peut faire sourire entre des bandes sonores et des ballons pleins de détritus. On se dit que ça reste quand même plutôt sympa comme manière de se faire la guerre. En tout cas, si Séoul, donc la capitale, le gouvernement de Corée du Sud a choisi donc de se livrer à des provocations par distribution de tracts et de haut-parleurs, il ne fait aucun doute qu'elle sera témoin de notre nouvelle riposte. Ça, ce sont les mots de Kim Yo-young, c'est la puissante sœur donc du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un qui s'exprime visiblement à sa place. Selon la présidence sud-coréenne, donc de l'autre côté, il s'agit de mesures correspondantes de leur part, suite à l'envoi justement par Pyongyang ce samedi de plus de 300 ballons remplis d'immondices, avec selon l'armée sud-coréenne cette fois-ci du plastique et du papier usagé. Il y en avait déjà eu près d'un millier qui avaient été lancés fin mai, début juin, et cela était visiblement un petit peu plus chargé en détritus. Attendez, je charge. Ah, voilà. Faut remonter aussi au 2 juin. C'est la Corée du Nord qui avait mis fin justement à ces ballons poubelles. Elle a recommencé en réaction donc à l'envoi cette semaine vers le nord par les militants sud-coréens de nouveaux ballons avec dedans de la K-pop, donc cette musique très prisée des jeunes, la Korean Pop, qui fait d'ailleurs des ravages aussi chez nous. Aussi, ils avaient mis dans ces ballons des billets en dollars, donc de l'argent, et de la propagande hostile au dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Une émission avait été diffusée par haut-parleur dans l'après-midi par l'armée donc sud-coréenne qui avait annoncé que le Nord avait à nouveau envoyé ses ballons qui soupçonnaient de transporter des immondices vers le Sud en conseillant à ses citoyens de ne pas y toucher et de les signaler aux autorités. Le président de la Corée du Sud, Yoon Suk-yeol, a suspendu mardi l'intégralité d'un accord militaire de détente qui avait daté de 2018. Et donc, ça a été cette suspension d'accord et cette fête entre la fin du mois de mai et le début du mois de juin, suite donc au lâchement de ces milliers de ballons lestés de sacs pleins de détritus. Ça allait à des mégots de cigarettes jusqu'à carrément des cacas d'animaux. La suspension de cet accord de 2018 permet donc à la Corée du Sud, par exemple, de reprendre des exercices de tir réel et de relancer des campagnes donc de propagande contre le régime du Nord avec ces fameux haut-parleurs tout le long de la frontière. Le Sud explique mener ce type de propagande donc en représailles à ce qu'ils considèrent comme des provocations continuelles de la part de la Corée du Nord. Ils avaient déjà utilisé ce système de haut-parleurs en 2016 après le quatrième essai nucléaire de Pyongyang. Et à l'intérieur de l'opposition sud-coréenne, c'est le Parti démocratique qui critique le gouvernement de Séoul pour n'avoir pas pour avoir à l'initiative du gouvernement qui pose un risque d'escalade vers une guerre régionale, selon un porte-parole. Donc voilà, pour l'instant, on en sourit, mais visiblement, les choses risqueraient de s'envenimer.
Audi, Panem, quid meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien.
On va boucler avec 2-3 brèves piochées, notamment dans les colonnes du journal Reporter, qui s'intéresse tout d'abord aux Jeux Olympiques, avec notamment le fameux sponsor, un des sponsors officiels, Coca-Cola quand même, super pour le sport, qui est aussi visiblement champion olympique du plastique, puisqu'on apprend que 3/4 des bouteilles qui seront distribuées par Coca seront en plastique. C'est 18 millions de boissons en circulation qui sont supposées distribué pendant les JO, et donc sur ces 18 millions, à peu près 10 millions seront en plastique. C'est l'association France Nature Environnement qui a révélé ce chiffre ce 5 juin. L'association dénonce donc une pratique de greenwashing par le géant des sodas, qui est le partenaire des boissons durant toute la compétition. Sur ces fameux 10 millions de bouteilles, 6 serviront à remplir des verres réutilisables donnés aux spectateurs, de quoi permettre à Coca-Cola de continuer à prétendre n'utiliser aucun contenant à usage unique. Bon, les bouteilles quand même, c'est usage unique. Et les 4 millions de bouteilles qui restent, elles, ce sont des nombres de bouteilles qui seront mises à la disposition des athlètes gratuitement. Une pratique qui est pourtant interdite par la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, la GEC, mais qui est autorisée à Coca-Cola par le comité des Jeux Olympiques et Paralympiques, visiblement donc au-dessus des lois des pays dans lesquels ils organisent ces Jeux. Dans la note qui est consultée par France Nature Environnement, le comité olympique invoque la lutte contre le dopage sous couvert de santé publique. Bien que cette donc dérogation à la loi soit prévue, légalement, le comité n'a fourni aucun papier officiel qui l'atteste dans le cas présent. FNE donc, ainsi que d'autres ONG engagées dans la lutte contre le plastique ont réclamé cette dérogation et ont saisi donc les autorités administratives. Des éco-cups, des bouteilles en verre, des fontaines à eau, tout ça a été pourtant prévu par Coca-Cola dans son cahier des charges. C'est ce qui était normalement organisé pour pouvoir respecter l'objectif initial des organisateurs des JO, c'est-à-dire de contribuer positivement au climat. L'entreprise Coca avait déjà été épinglée par Break Free from Plastic en février dernier. Ce groupement d'ONG de lutte contre les emballages plastiques avait élu Coca-Cola championne du monde 2023 de la pollution plastique, et ce pour la 6e année consécutive. Et excusez-moi, j'ai un petit bug avec l'ordinateur. Ah voilà. Voilà, des boissons fraîches avec plein de sucre et de gaz dedans pour les JO et puis visiblement peut-être aussi de la climatisation pour les athlètes. 3000 sportifs environ auront finalement un climatiseur dans leur chambre. C'était pas gagné puisqu'en effet le comité d'organisation des JO de Paris, qui promettait donc toujours une compétition durable, avait fait le choix de ne pas climatiser le village des athlètes. Mais une enquête du Washington Post publiée le 6 juin dernier révèle qu'au moins 8 pays ont décidé de contourner cette règle. Ce sont les États-Unis, l'Australie, le Danemark, la Grèce, l'Allemagne, l'Italie, la Grande-Bretagne et le Canada, donc pas des moindres avec des belles délégations, qui amèneront leurs propres climatiseurs dans les valises de leurs athlètes. Plusieurs de ces délégations craignent en effet des températures caniculaires et qui seraient mauvaises pour les performances de leurs athlètes. C'était déjà ému au mois de juillet dernier de l'absence de climatisation donc du village olympique, dont la conception était pourtant censée assurer un rafraîchissement naturel des bâtiments. Visiblement, ils n'ont pas trop cru. Le comité d'organisation avait autorisé à l'époque les États à apporter leurs propres appareils de refroidissement de l'air, mais à leur charge, eh bien, ils ont donc pris le mot à la lettre. Et ils vont venir tous avec leurs appareils. En 2020, rappelle cette petite brève, la climatisation a été responsable de 5% des émissions de gaz à effet de serre produites par le secteur du bâtiment en France. Ce sont des chiffres de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Bilan carbone désastreux, surtourisme, déchets. Comme le racontait donc en avril toujours ce journal reporter, les Jeux Olympiques n'auront en tout cas rien d'écologique, contrairement à ce que continue de tenter d'affirmer le gouvernement. Allez, on termine avec une petite nouvelle un peu de nos amis les animaux qui concerne les éléphants. Ce sont des chercheurs qui ont réussi à voir comment les éléphants se communiquaient entre eux, notamment comment ils s'appelaient. Ce sont les éléphants d'Afrique dont on parle et apparemment ils se donneraient des petits noms pour communiquer entre eux. Cette étude a été publiée hier dans la revue scientifique Nature, Ecology and Evolution. Les chercheurs ont utilisé des méthodes d'apprentissage automatique, c'est une forme d'intelligence artificielle qui vise à apprendre aux machines à tirer des enseignements des données qu'on leur fournit, et grâce à ça, ils ont analysé les enregistrements de 469 appels, c'est comme ça qu'on va les nommer, des appels qui ont été émis par des groupes de femelles d'éléphants sauvages d'Afrique. Tous ces éléphants sont originaires du parc national d'Amboseli, ainsi que des réserves nationales de Samburu et Buffalo Springs au Kenya. Et tous ces grondements d'éléphants ont donc été enregistrés sur la période entre 1986 et 2022. Le modèle a ensuite donc correctement identifié le destinataire, enfin leur modèle donc d'enregistrement a correctement identifié le destinataire sur 27,5% des appels analysés. C'est-à-dire que les éléphants arrivent à s'appeler individuellement avec leurs cris. Cette proportion est donc significativement plus élevée que ce qu'on obtient avec des sons contrôle aléatoires. Ils ont aussi pris des enregistrements au hasard et les ont diffusés. Les chercheurs ont d'ailleurs aussi fait écouter à 17 éléphants des appels qui leur étaient destinés à eux. Eh bien, ces pachydermes y ont répondu positivement, soit en répondant eux-mêmes par un son, soit en s'approchant du haut-parleur d'où venait le son. Les appels destinés à d'autres éléphants ont suscité moins de réactions, donc ils ont plutôt reconnu leur propre nom, ce qui suggère donc, selon les scientifiques, que les éléphants pourraient s'adresser les uns aux autres en utilisant des appels spécifiques à chaque individu, ce qu'on appelle communément chez nous un prénom ou un surnom. D'ailleurs, d'autres espèces non humaines, par exemple les dauphins ou les perroquets, avaient déjà été observées en s'adressant les unes aux autres en utilisant des bruits spécifiques. Eh bien, il s'agissait dans le cas de ces deux espèces d'imitation de sons qui sont émis par le destinataire de leur appel. Donc, par exemple, si l'animal à qui vous voulez vous adresser a un cri particulier, bah, vous refaites ce cri et donc il se reconnaît. Alors que là, avec les éléphants, on a plutôt l'impression que c'est vraiment des noms qui sont utilisés. Et donc, jusqu'à présent, bah, c'était seulement les humains qui étaient connus, en tout cas, pour s'adresser les uns à l'autre en utilisant des prénoms. Dans un communiqué, l'un des auteurs de cette étude, le biologiste George Whittemeyer, a déclaré donc que le recours à des étiquettes vocales arbitraires pourrait signifier que les éléphants sont capables donc de penser arbitraire.
C'était vraiment très intéressant.
Oui, je trouve aussi que c'était vraiment très intéressant. C'est là-dessus qu'on va se quitter, les amis. Rendez-vous jeudi pour d'autres nouvelles du monde. D'ici là, portez-vous bien et puis bon courage à tous.
Monsieur des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein, les informations, ça manque pas, mais il faut choisir hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interviews, communiqués. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.